Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux fils d'Israël. L'Éternel est compatissant et lent à la et il fait grâce, pardon. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bienveillance de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice pour le fils de leur fils, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses préceptes afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine, mon âme bénit l'Éternel. Amen. Texte connu, je propose de prier simplement. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour cette occasion que tu nous donnes ce matin d'être rassemblés et de te bénir, de te chanter, de te prier, de nous encourager à lever les yeux vers toi. Et je prie qu'au travers de ce psaume, de ce texte du roi David, nous puissions être encouragés dans notre foi. Merci pour ton esprit qui veut faire révéler ces choses à nos cœurs encore une fois et nous voir contempler ta grandeur, ta sainteté, ta royauté. Seigneur, viens nous rejoindre dans nos préoccupations à chacun. Seigneur, merci parce que tu nous connais chacun et nous voulons te demander que tu puisses nous parler. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Clé, portefeuille, téléphone. Trois mots, trois choses que je vérifie systématiquement avant de sortir de la maison. Ce matin d'ailleurs, j'ai dû courir chercher mon téléphone. Et très souvent, c'est avec l'aide de mon épouse que je m'assure de ne rien oublier. Souvent, je n'ai que deux sur les trois. En principe, chacun de ces objets a une place précise à la maison. Parfois. Mais dans le rush du départ, c'est la panique, impossible de mettre la main dessus. Je ne sais pas vous, hein, mais il y en a tellement de choses en tête qu'on est oublieux. On est oublieux. Les choses ne s'impriment plus peut-être aussi facilement. Avec l'âge, je ferme la parenthèse. Si quelqu'un me donne son numéro de téléphone et que je ne prends pas le soin de le noter, impossible de le retenir. Par contre, vous l'avez remarqué, il suffit parfois d'un air de musique qui va d'ailleurs peut-être trotter tout au long de la journée en tête, va nous aider à nous rappeler des vérités. Il y a bien des cantiques, il suffit de les fredonner et ça va revenir à notre mémoire. C'est la force du chant qui va connecter des vérités à nos pensées. En chantant, on retient plus facilement. Et en fait, les psaumes, c'est un recueil de chants. On le sait, hein. Donné au peuple d'Israël pour leur rappeler quel Dieu il est et ce qu'il a fait. un livre inspiré de poèmes pour nourrir notre mémoire et notre adoration. Les psaumes sont là pour nous aider à nous rappeler, à nous souvenir. Et ce matin, on l'a déjà dit, nous sommes là pour adorer Dieu. Et on l'a fait déjà avec les chants, mais on le sait, ça ne se limite pas aux chants. Les chants sont là pour nous aider à nous rappeler des vérités. Ces chants sont précieux. Ils aident à graver dans nos cœurs, dans nos mémoires si oublieuses, la grandeur de Dieu et de son œuvre. Ces chants orientent nos pensées, nourrissent notre reconnaissance et plantent des vérités en nous. Voilà pourquoi le choix parfois de nos chants est si important. Ils ne sont pas juste là pour remplir un moment musical joyeux, mais elles ont vocation, ces chants, à nous enseigner, à nous rappeler ce que Dieu est, ce que Dieu fait, ce que Dieu fera. Et devraient nous aider à méditer ces vérités autour du caractère de Dieu. Et quand on chante, on n'est pas là juste pour exprimer un sentiment. On est là pour proclamer des vérités que l'on veut dire à notre âme, qui nourrissent notre foi et fortifient notre mémoire. Le chant est un outil puissant entre les mains de Dieu pour nous encourager, et les psaumes en font partie. Et c'est ce qu'on va voir avec ce psaume. Ce psaume 103, il est juste magnifique parce qu'il va nous appeler à bénir Dieu, à se souvenir de ses bienfaits, à se souvenir de qui il est et à l'adorer de tout notre être. Alors j'ai donné à ce message comme titre « Chantez Dieu à mon cœur. Chantez Dieu à mon cœur. » Ce n'est pas simplement dire certaines paroles. Il y a quelque chose de profondément intentionnel de se souvenir des bienfaits de Dieu, de célébrer le caractère de Dieu, d'espérer avec confiance en son royaume éternel. Voilà comment je résumerais ce psaume. Alors entrons dans ce chant qui est extraordinaire. Et vous l'avez vu, ce chant commence d'une façon vraiment particulière. Je relis le verset 1. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. » À qui David parle-t-il ? À lui-même. David se parle à lui-même. Et vous, ça vous arrive de vous parler à vous-même ? Moi, ça m'arrive, on se répète des choses, on se motive. « Allez, allez, tu vas y arriver !» On se persuade. Ici, David se parle de façon intentionnelle. Il se prêche à lui-même. Il se rappelle l'essentiel. En fait, ce psaume 103, c'est comme votre post-it que vous mettez sur votre frigo pour vous rappeler l'essentiel. Un rappel à ne pas oublier. Vous utilisez des post-it ? Parfois, aujourd'hui, peut-être on a une application sur le téléphone, pour ne pas oublier. Ils servent à rappeler les choses qu'on a tendance à oublier. Et c'est ce que ce psaume veut faire pour nous. David, il est là, il a dit, je veux dire à mon âme, je veux dire, comme une conversation avec lui, les vérités, je veux parler de mon Dieu, pour ne pas oublier. Un grand prédicateur, Martin Lloyd-Jones, que je suis en train de lire d'ailleurs, a dit, nous devons parler à notre âme au lieu de la laisser s'adresser à nous. Dans la dépression spirituelle, nous laissons notre moi s'exprimer au lieu de lui parler. Il y a cette idée-là. Autrement dit, ne pas se laisser emporter par nos émotions, par nos doutes, par nos impressions, par les craintes et nos peurs que nous dictent, qui viennent de notre cœur. Au contraire, prenons le temps, et c'est ce que ce psaume veut faire, de parler à notre cœur, de lui rappeler les vérités de ce qui est vrai. C'est ce qu'on est appelé à faire ce matin, à être intentionnel, à nous parler, à nous exhorter. Ça ne se produit pas par hasard. On veut de façon intentionnelle se tourner vers lui et se dire ce que nous émerveiller de la grandeur de Dieu et lui dire merci. Je choisis de dire à mon âme que Dieu est le plus important. Mon âme bénit l'Éternel. On pourrait se poser la question, je donne juste une définition encore, comment Piper il évoque la question de bénir Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est parler de façon authentique, profonde, de la grandeur, de la bonté de l'Éternel. c'est parler de notre Dieu. Alors David choisit pour ne pas oublier de chanter, et on a ce privilège d'avoir ce chant, ce psaume 103, de dire par le chant, par le poème, de dire à son âme, loue Dieu. Alors comment on va en parler à notre âme? Et le psaume nous donne beaucoup de pistes. Et premièrement, on le voit dans la première partie du verset, David nous encourage, bien sûr, à chanter Dieu à notre cœur, mais en se souvenant des bienfaits de Dieu. En se souvenant des bienfaits de Dieu. Premier appel que Dieu nous lance, que David nous lance, est clair. Hein. Verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Voilà le premier appel essentiel. « Je n'oublie aucun des bienfaits de Dieu. » N'oublie pas où Dieu a agi dans ta vie. La traduction Tob le parle même, « N'oublie aucune des largesses de Dieu. » N'oublie aucun de ses bienfaits. Cette générosité de Dieu qui a été déversée sur toi, ne l'oublie pas. Alors la question pour nous ce matin, elle est, où as-tu vu Dieu agir dans ta vie? Où as-tu vu Dieu agir dans ta vie? Peut-être il y a 10 ans, il y a eu quelque chose de fort. Peut-être il y a quelques mois. Peut-être cette semaine, tu as vu Dieu agir, tu as vu des choses extraordinaires. Où Dieu est à l'œuvre dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu prends le temps de t'arrêter, de te dire et de marquer comme un souvenir aujourd'hui, waouh, de repasser dans mon cœur les bienfaits de Dieu, ce que Dieu a fait? Je vous parlais tout à l'heure, on oublie vite. Et David se dit, je veux oublier aucun de ses bienfaits. Donc c'est important de se souvenir, de se rappeler. Et quand nous oublions notre corps peut-être aussi, se laisse facilement envahir par tant d'autres voix. Je parlais tout à l'heure de la peur, de l'inquiétude, du découragement, du doute, parce qu'on a oublié ce que Dieu a fait dans le passé. Mes amis, ayons une conversation avec notre âme. Dites à votre âme de ne pas oublier les bienfaits de Dieu. Notre société, elle nous dit quoi? Écoute ton cœur. David nous dit, écoute les bienfaits de Dieu. Parle à ton cœur. Ne l'écoute pas. Ne laisse pas gouverner ton cœur par tes émotions, par tes découragements. C'est toi qui dois rappeler les vérités que tu as découvertes de Dieu. Redis-toi, repasse dans ton cœur les bienfaits de Dieu. Voici ce qui est vrai au sujet de Dieu. Voici ce qu'il a fait. Voici ce qu'il a dit dans ma vie. Voici ce qu'il a promis. Dieu m'exhorte. David nous exhorte. Parle à ton cœur, souviens-toi, compte les bienfaits de Dieu, comme ce beau chant, ce cantique. Et regardez maintenant les quelques bienfaits de Dieu que David nous liste simplement. Verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Magnifique. On pourrait s'arrêter sur chacun des mots, on n'a pas le temps ce matin. Mais notez l'insistance, c'est lui. Voilà ce que Dieu a fait. Chaque bienfait vient de Dieu. Et je trouve extraordinaire, la première chose que David dit, c'est « Dieu pardonne toutes nos fautes ». Ça fait du bien de se savoir pardonner. Non ? Ça fait du bien de se savoir pardonner. Quelle paix ! Parfois, on porte une culpabilité par nos pensées, comme un lourd fardeau. Mais David nous dit, mais rappelle-toi, Dieu nous libère complètement en Jésus-Christ. On a chanté des choses comme ça tout à l'heure. Ce pardon n'est pas partiel. Par la croix, il est parfait, il est total. Ensuite, David parle de guérison. Dieu travaille à restaurer dans nos cœurs, dans nos vies, ce qui est brisé. Je pense que si on se rappelait de là où on vient, la manière dont Dieu a restauré des choses qui étaient abîmées, c'est loin d'être fini, on le sait. Parfois, il est intervenu physiquement, bien évidemment, mais parfois, dans notre intérieur, il a recollé les morceaux d'une vie qui était complètement brisée. Il est celui qui guérit, il est celui qui restaure. Avons-nous déjà pensé à ce que serait notre vie si on n'avait pas rencontré Dieu ? il y a peut-être 10 ans, il y a peut-être 5 ans, il y a peut-être il y a quelques mois. Qu'est-ce que serait votre vie sans connaître Jésus ? S'il ne t'avait pas retiré ta vie du gouffre, comme nous dit le psalmiste ici. Je dois me le redire, les bienfaits de Dieu, ses interventions, me souvenir, je serais où s'il n'était pas intervenu dans ma vie. Voilà pourquoi nous bénissons Dieu. Ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis Dieu, ô mon âme. Au verset 4, David déclare que nous sommes couronnés de bienveillance. Certaines traductions ou couronnés de bonté, de tendresse, de fidélité. Et là, on a un des mots les plus précieux dans l'Ancien Testament, c'est le mot hébreu « resed ». Hesed ou resed, un mot important qui décrit un caractère de Dieu qui serait tellement précieux de méditer. Un mot très riche. C'est pas juste bienveillance dans le sens gentillesse ou sympathie. C'est l'amour fidèle, indestructible, loyal, débordant de Dieu. Il exprime ce caractère de Dieu. Il agit avec grâce, avec miséricorde, généreusement. C'est une promesse, même quand nous sommes infidèles. Le hesed de Dieu ne faiblit jamais. Il ne recoule devant rien, ne nous lâche jamais. C'est un amour qu'on pourrait dire fou, qui a l'œuvre, qui restaure, qui relève, qui poursuit. Un amour qui dépasse tout ce qu'on peut décrire. Et enfin, Dieu rassasie nos vies. Il est question de jeunesse jusqu'à la vieillesse. Dieu est présent, Dieu veille du début à la fin. Il est le souffle de notre vie. Est-ce qu'on se souvient de cela dans nos vies, ce qui s'est passé derrière nous ? Récemment, en famille, on a changé notre abonnement Internet. Et en vérifiant les options qui étaient sur mon ancien abonnement, j'ai réalisé que j'avais tout un tas d'options de mon ancien abonnement que j'avais oubliées et qui ont été tout à fait inutiles pendant bien des années. D'ailleurs, je ne m'en suis pas servi. Mais j'ai oublié tout ce qui était dans le paquet, dans le package. On oublie si facilement tout ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. Avec quelle facilité on oublie la puissance de la croix, l'Esprit Saint qui a été présent, la résurrection, il est présent dans notre vie. Alors comme David, mes amis, parlons à notre âme. Redis-lui qui est Dieu, ce qu'il a fait pour toi. C'est ce qu'on fait ce matin. On est là pour se rassembler, on le chante autour de chants, autour de la scène. On veut se souvenir intentionnellement de qui est Dieu et de ce qu'il a fait. On le fait de façon visuelle, de façon sonore avec les chants. Dieu a été comme ça dans ma vie. Et il l'est aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout, adorer Dieu, ce n'est pas simplement juste se souvenir du passé, de ce qu'il a fait, de mon expérience personnelle, parce qu'on a l'impression que c'est cela, au début en tout cas, c'est aussi un acte de célébration, de contempler Dieu tel qu'il est, célébrer le caractère de Dieu. On voit ça des versets 6 à 13. David nous invite à aller plus loin, célébrer le Dieu vivant, celui qui est. Regardez comment la chanson continue, verset 6. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux fils d'Israël. L'Éternel est compatissant. Il fait grâce. Il est lent à la colère, riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Frères et sœurs, ça c'est l'Évangile, la bonne nouvelle. David a écrit ses vers bien des siècles avant la croix. Et pourtant, on retrouve le pardon de l'Évangile, l'œuvre de l'Évangile, la bonne nouvelle, se souvrir intentionnellement de qui est Dieu, de son caractère, de comment Dieu s'est révélé à Moïse. Comment on apprend à connaître une personne ? On écoute ses histoires, on prend le temps d'échanger avec cette personne, on observe sa vie, on apprend à connaître son passé, son présent, quels sont les espoirs pour l'avenir, Ça prend du temps, ça demande des conversations, des échanges, de la patience. Et quelque part ici, c'est ce que David fait. Il se rappelle qui est Dieu. Il contemple le caractère de Dieu. Et il invite son âme à le célébrer. Alors, qui est Dieu selon ces versets ? Je me rappelle quand j'ai préparé, j'ai listé tout ce qu'on apprend de Dieu sur une feuille. J'avais un A4 rempli, avec différents termes que David a employés. On n'aura pas le temps de le voir. Beaucoup d'entre nous, nous savons qui est Dieu. David parle d'un Dieu compatissant, plein de grâce. Ça veut dire lent à la colère, riche en bienveillance. Il ne se lasse pas de pardonner. Il ne garde pas rancune. Quelle différence, hein, avec nos réactions humaines. Le verset 10, il est particulièrement bouleversant. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Ce n'est pas donnant-donnant. Ça signifie que si Dieu appliquait une justice comme moi j'ai l'habitude de l'appliquer, on ne tiendrait pas debout. Mais il agit avec grâce. Un Dieu qui agit avec grâce. On voit qu'il éloigne nos offenses. Il éloigne ce qui pue devant Dieu. Autant que l'Orient et l'Occident. Alors on le dit facilement, mais imaginez qu'il éloigne à l'Ouest. Enfin, je ne sais pas si l'Ouest est là, mais... mais on est loin d'atteindre l'Est. Dieu met une distance infinie entre nous et notre péché qu'on a confessé à Dieu. Plus besoin de méditer sur ces fautes-là qu'on a, que Dieu a pardonnées, que Dieu a payées. Combien de fois nous sommes découragés? On croit à la grâce, bien évidemment, on croit au salut, on croit à ce que Dieu éloigne de nous, mais puis on retombe. Il y a cette petite voix qui dit « on n'en est pas digne, tu n'y arriveras pas, regarde cette pensée que tu as eue à convoiter la voiture de ton voisin. » C'est la voix de l'accusateur, ce n'est pas la voix de Dieu. La vérité, elle est là sur Dieu. Dieu pardonne parfaitement. Il a fait justice en Jésus. Il a payé notre dette. Il a enlevé nos fautes à jamais. Ça, c'est connaître le caractère de Dieu et le méditer. Voilà pourquoi on est appelé à le célébrer, à nous le rappeler, à nous le chanter, pour que cette vérité pénètre notre âme. Entendre Dieu nous dire qu'il est patient avec nous, qu'il est fidèle de toute éternité. C'est pas facile de comprendre. Il est fidèle de toute éternité. Ça veut dire depuis toujours et jusqu'à toujours. Écoutons Dieu, nous commençons à connaître Dieu. Écoutons Dieu et apprenons à le connaître. Alors on est appelé, oui, à chanter des chants qui proclament des attributs de Dieu. On est appelé à chanter des chants qui parlent de la sainteté de Dieu, de la grandeur de Dieu, de l'immensité de son amour. Et on doit laisser ces vérités pénétrer notre cœur. Je relis juste le verset 13. Ah, je ne l'ai pas encore lu, mais je le lis. Verset 13, qui est un peu comme le cœur de ce psaume. « Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Deux phrases, mais qui disent la même chose. « Comme un père a compassion de ses fils. » David nous montre que Dieu est comme un père. Un père, un bon père. Une bonne image. Vous avez peut-être eu un bon père, qui vous a montré un bon exemple. C'est une pâle image. En tout cas, c'est un bon panneau indicateur de qui est Dieu. Un Père céleste. Mais c'est plus qu'un Père. Parce qu'il est question d'un Père compatissant. Un Père qui a compassion, pardon. Et là, il y en a un autre mot hébreu. C'est raham, je ne sais pas comment on le dit, mais voilà. Et en fait, ce terme, quand vous regardez la signification, c'est un terme utilisé pour parler de l'attachement d'une mère à son enfant. D'une mère pour son bébé. En fait, il y a quelque chose d'une tendresse qui sort des tripes. Un amour protecteur, un attachement indébilié, une intense émotion, comme la maman avec son tout nouveau-né frêle. Il y a l'attachement intime et privilégié. Ésaïe exprime magnifiquement cette idée. Ésaïe 49:15. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, donc Dieu, je ne l'oublierai pas. En fait, c'est un père, mais on peut dire il a telle une mère aussi. Il est rempli dans le fond de ses entrailles de toute la panoplie de l'attachement qu'une mère peut avoir avec son enfant. La Bible nous encourage à nous attacher à Dieu, mais on voit bien souvent dans la parole de Dieu qu'en fait Dieu s'attache à nous, bien plus que nous avons imaginé, et notamment en Jésus-Christ. Paul dira en Philippiens, « Car Dieu m'est témoin », donc ça c'est l'amour que Paul porte à ses frères et sœurs, « que je vous chéris tous avec la tendresse de Christ. » Jésus-Christ a manifesté cet attachement de père, cet attachement tel une mère, une tendresse. Alors, l'adoration, on le voit dans ce texte, David nous encourage à nous rappeler qui est Dieu et de nous laisser toucher profondément par qui il est. Oui, c'est un Dieu miséricordieux, oui, c'est un Dieu rempli de compassion, mais on doit le faire descendre comme une vérité qui nous touche, qui nous émeut. Et David ne reste pas avec une pensée un peu silencieuse, hein, il le chante, je l'ai déjà dit, hein. C'est ce qu'on doit faire le matin, ce matin quand on est rassemblés. On doit chanter qui est Dieu. On doit nourrir ainsi notre foi et marquer notre cœur. Alors dire à son âme de bénir Dieu, déjà c'est de se souvenir de ses bienfaits. C'est célébrer qui il est, ses attributs. Mais David, on voit qu'il nous invite à aller encore plus loin. Il nous appelle à placer notre espérance dans qui est Dieu, dans le royaume de Dieu, dans ce que Dieu est en train de faire dans l'éternité. C'est le troisième point de ce texte. Regardez le verset 14. « Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes que poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. » Quelle image forte, mes amis ! David se rappelle que nous, on n'est que poussière. Que poussière. Et lorsqu'un vent passe, elle n'est plus. Et le lieu où j'habitais, il n'y a plus le souvenir. David nous encourage à voir la perspective. De voir les choses en perspective. Vous avez probablement déjà fait toute cette expérience. J'aurais pu l'introduire comme ça, le culte. Ces moments où vous n'avez pas envie d'aller au culte. La vie, elle est chargée, elle est compliquée, vous avez des préoccupations, le travail, la famille, les relations ont été compliquées. Et pourtant, vous êtes là, vous commencez à chanter les cantiques, ensemble, vous dites ensemble qui est Dieu, ce qu'il a fait. Et soudain, la perspective change. Ce qui semblait important avant, comme ultime, perd son poids. Et on se rappelle qu'en fait, l'essentiel est là. Et c'est ce qui arrive pour David. Il dit que le Seigneur connaît notre vie. En tant qu'être humain, on aime ce qui est constant, ce qui est solide, durable. On recherche un endroit où on sait qu'on est bien, on construit sa petite maison, un lieu fixe. Mais le texte nous dit que ça va passer, que même le lieu où on a grandi va un jour disparaître et n'aura plus la trace du souvenir. Vous avez sans doute déjà fait ça, où vous revenez à des lieux où vous avez grandi, par exemple, des lieux d'enfance. Votre maison, c'est peut-être votre maison familiale, et vous y retournez quelques années plus tard et vous ne reconnaissez plus. Le quartier qui était vert avant, où vous jouez dans les champs, est devenu un lotissement. L'école où vous avez grandi en tout gamin a changé, ou est décrépit, ou est vieux, alors que c'était une école nouvelle quand vous avez démarré votre maternelle. Vous allez là où vous avez bossé la première fois, dans la boîte, et puis voilà, juste pour dire un bonjour, et vous ne reconnaissez plus personne. Le lieu ne vous reconnaît plus. Les choses ont changé. Où poser nos bagages ? On est éphémère. Que poussière. Et c'est là que David répond. Il y a toujours un mais avec le Seigneur, mais, verset 17, je relis verset 17-19, mais la bienveillance de l'Éternel, donc là le recède, hein, dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses préceptes afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Quel contraste, mes amis. Je ne suis pas Dieu, ma vie est courte, fragile, mais j'ai un Dieu qui n'est pas comme moi, qui est stable, qui demeure éternellement, qui règne, et j'appartiens à ce royaume. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prêche-le à ton âme. Prêche-le à ton âme. Je cite Timothée Keller, un autre pasteur contemporain, qui nous dit « L'amour de Dieu est le seul endroit au monde où le feu ne s'éteint jamais dans la cheminée, où il y a toujours une lumière qui brille dans la maison, le seul endroit au monde où tu es toujours accueilli à bras ouverts à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Voilà le lieu où on est bien, où on sera toujours accueilli. Voilà notre espérance pour celui qui est connu de Dieu. Tous les royaumes autour de nous vont tomber les uns après les autres. Les systèmes politiques, les systèmes financiers vont échouer. Mais le règne de Dieu, David l'a dit, demeure. Mes amis, le culte, l'adoration, la célébration, la bénédiction de Dieu, ce n'est pas simplement de se rappeler ce que Dieu a fait dans le passé, mais c'est de se dire, il y a un avenir. Il y a quelque part une anticipation prophétique de cette espérance. Le pas encore, mais qui est déjà là. Mes amis, adorer, c'est poser notre regard sur notre espérance, sur ce que nous n'avons pas encore vu, ce que nous n'avons pas encore totalement goûté, mais qui est déjà certain et assuré en Christ. Voilà ce que David nous encourage. Je me souviens de ce que Dieu a fait dans mon passé. Je me souviens de qui est Dieu et je me souviens de ce que Dieu fera, de ce que Dieu accomplira. Voilà l'attitude que nous sommes appelés à bénir Dieu. Vous l'avez peut-être remarqué comment s'achève ce psaume. L'adoration devient collective. Verset 20, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. » L'adoration, elle est devenue là mondiale, on pourrait dire. C'est extraordinaire. Ce psaume, il a commencé avec David, qui de façon seule bénit Dieu et veut le dire à son cœur, dans ce dialogue intime. Et se termine, on pourrait dire, avec une symphonie collective, universelle, où tous les anges, les armées célestes, la création entière s'associent à cette louange, à qui est Dieu, à ce qu'il a fait. Mes amis, l'adoration commence dans notre cœur, mais notre adoration s'associe aussi avec celles et ceux qui sont autour de nous pour proclamer la grandeur de Dieu. Et c'est une chose que j'aime dans l'adoration, c'est d'entendre nos différentes voix rendre gloire à Dieu. Vous et moi, on a été créés pour rendre gloire à Dieu, nos délices ultimes. Et si nous ne le faisons pas, Jésus a dit, les pierres crieront. Les pierres crieront. Alors chantons ensemble à l'Église. Ce n'est pas superflu, c'est même vital, ça doit faire partie de notre désir d'honorer le Seigneur. C'est un lieu ensemble où on est encouragé, ensemble, les uns avec les autres, à rappeler les bienfaits de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais nous inviter à nous poser ces questions. Quelles sont mes raisons à moi de bénir Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux rappeler à mon âme cette semaine? J'aimerais peut-être vous encourager cet après-midi, ce soir, avant de vous mettre au lit, à prendre peut-être votre post-it spirituel et à noter un bienfait de Dieu, de ce qu'il a peut-être fait. Peut-être de noter un trait de caractère de Dieu, de se dire, ouah, ça m'a toujours, je veux me le dire. Peut-être que c'est se noter l'espérance sûre et fondée en Jésus-Christ qui nous attend pour nous aider alors que notre rentrée, elle est floue, elle est tellement perturbante, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais de regarder plus loin à cette espérance et prêchez-le à votre âme. Dites-vous, un peu comme un cahier de vacances, recherchez chaque jour un sujet pour bénir Dieu. Voilà l'attitude que David nous encourage dans ce psaume. Et ce psaume finit comme il a commencé, hein. « Mon âme bénit l'Éternel ». Alors qu'est-ce que ça signifie, bénir l'Éternel? On l'a vu, hein. Ce psaume 3 nous a montré trois mouvements. Se souvenir des bienfaits de Dieu, ne pas oublier ce que Dieu a déjà fait dans ma vie, depuis la croix, jusqu'à tous nos petits instants ordinaires. C'est aussi célébrer son caractère, proclamer qui il est, compatissant, riche en bonté, riche en grâce, un père tendre, une mère aimante, etc., tout ce que vous voulez mettre dedans. Mais c'est aussi anticiper son royaume, replacer nos vies fragiles dans la perspective de l'éternité qui va durer et garder ses yeux fixés sur ce cap. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais tout cela brille merveilleusement en Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, c'est lui qui nous a arrachés du gouffre où on était. C'est lui qui est l'expression parfaite de la compassion du Père. C'est lui qui manifeste, mais c'est lui aussi le roi couronné qui nous attend. Alors si tu veux savoir ce que signifie « mon âme bénit l'Éternel », il suffit de regarder à Christ. Parle à ton âme de Jésus-Christ. Parle à ton âme de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Mais attention, on l'a vu, ce psaume ne reste pas juste moi, avec un dialogue avec Dieu ou intérieur. Il se termine avec toute la création qui loue Dieu. L'adoration commence dans mon cœur, mais elle est appelée à s'élargir, à nous réjouir avec les autres, à devenir quelque part aussi un témoignage collectif. Cet été, on a le privilège de pouvoir laisser les portes ouvertes. On aimerait que ce qu'on proclame de Dieu, ce qu'on chante de Dieu, puisse être entendu, puisse être missionnel, on pourrait dire, puisse toucher des vies qui sont peut-être encore dans un passé compliqué, qui ne connaissent pas qui est Dieu et qui n'ont pas d'espérance. Alors mes amis, souvenons-nous, célébrons, rappelons-nous, anticipons que tout mon âme bénit l'Éternel. Amen.